Podcast. Question clé jusqu'à midi sur la première.
Êtes-vous nomophobe? Vous sentez-vous mal lorsque vous n'avez pas votre téléphone à portée de main? Lorsqu'il n'est pas dans votre sac? Est-ce que votre rythme cardiaque s'accélère quand votre smartphone n'est pas à proximité? Eh bien, on va évoquer tout cela ensemble avec vous, Bruno Delièvre. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Lumon, si vous êtes expert en technologie de l'éducation, vous connaissez donc bien l'univers de l'éducation, nouvelle technologie si on peut dire. Avant peut-être d'entamer cette discussion, je voudrais qu'on écoute un extrait du JT, un extrait réalisé par Delphine Simon et qui revenait justement sur cette nomophobie à l'occasion de la journée sans portable du 6 février.
C'est un matin comme les autres pour Anne. Son réveil, c'est son smartphone, une technologie qui s'invite avant même qu'elle ne sorte de son lit. Une visite des réseaux sociaux, une vérification de ses mails avant de démarrer sa journée, c'est devenu un rituel incontournable. Un smartphone qui finit par rythmer ses moindres gestes et qui s'est rendu totalement indispensable.
Il sert à tout et pas tellement à téléphoner. Je téléphone pas des masses, mais il sert. J'ai plein d'applications. J'ai la banque, des trucs basiques, hein, la météo. Mais j'ai une application sur les pharmacies de garde. À mon âge, ça devient précieux. J'ai même une application qui m'aide à avoir le temps exact pour cuire mes œufs durs.
Au total, et comme beaucoup d'autres personnes, Anne consulte son téléphone 4 à 5 fois par heure.
On parle ici de rituels, d'éléments ou d'objets indispensables, toute une série d'applications. Ça vous étonne quand vous entendez ça, Bruno ?
Non, pas du tout. Je pense que c'est tout à fait dans l'air du temps. Et voilà, aujourd'hui, nous avons des outils qui nous permettent de remplacer toute une série d'autres outils qui existaient précédemment, mais ils sont simplement rassemblés sur un support qui est un support unique pour la plupart, enfin, de manière... classique, on va dire.
Ici, dans cet extrait du JT de l'RTBF, on avait affaire à un adulte. On parlera dans quelques minutes des ados, très 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 accros, peut-être encore plus accros à leur smartphone et à leur GSM que nous. Mais avant ça, peut-être on va revenir sur la définition de ce que c'est que la nomophobie. On l'a dit tout à l'heure, c'est la contraction en fait d'un terme anglais, hein, no mobile phobia. C'est apparu quand cette no mobile phobia?
Alors. Au niveau terminologique, ça ne fait que quelques années parce que les téléphones portables n'ont pas 25 ans d'âge.
Non, non.
De la même manière, les smartphones se développent de plus en plus. Et donc aujourd'hui, enfin, d'abord, pour citer un chiffre par rapport à ça, il faut bien se rendre compte que si ça prend tant d'ampleur, c'est parce qu'aujourd'hui, on a la moitié de la population mondiale qui est occupée d'un smartphone ou d'un téléphone portable. Mmh. Donc, c'est considérable. Et donc, évidemment, ce qui était peut-être très local à un moment donné, aujourd'hui prend une ampleur considérable. D'autant plus que les possibilités qui sont offertes par ces outils sont elles aussi de plus en plus développées. Enfin, notre téléphone n'est pas qu'un téléphone, et comme l'a dit cette dame, c'est aussi un appareil photo, mais c'est aussi un disque dur sur lequel on stocke toutes nos informations.
Dans une étude américaine qui était consacrée justement à ce sujet, on entendait des témoignages de gens qui disaient, ou on lisait des témoignages de gens qui disaient « Mais mon téléphone est devenu quelque part une partie de mon corps, c'est le prolongement de mon corps ». Ça, c'est quand même très étonnant, non ? De se dire que ce téléphone, c'est le prolongement de ma main.
Je ne pense pas que ce soit étonnant. En fait, à l'heure actuelle, c'est l'outil qui, sans doute, est celui qui correspond le plus à notre style de vie et aux possibilités qui nous sont offertes. Alors, si on revient quelques années en arrière, eh bien... nous avions d'autres outils qui étaient ce prolongement du corps. L'artiste peintre, le prolongement de son corps, c'est son pinceau.
Le charpentier et son marteau, c'était aussi dans une étude publiée dans les années 50. Voilà. Vous disiez qu'il y avait une relation particulière avec le marteau pour le charpentier.
Tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est le même phénomène. Simplement, il est amplifié d'une part par les possibilités de l'outil et d'autre part par le fait que cet outil soit tellement diffusé que, évidemment, on va dire à peu près tout le monde est touché, puisque si la moitié de la population mondiale l'est, on peut considérer que c'est d'une ampleur considérable.
En Grande-Bretagne, 66% des personnes interrogées affirment qu'elles sont très angoissées à l'idée de perdre leur téléphone mobile et le chiffre monte à 76% chez les jeunes de 18 à 24 ans. Ça doit être à peu près la même proportion en Belgique, il n'y a pas de raison que ça change. Je ne sais pas s'il y a des études d'ailleurs là-dessus, mais enfin de là à se dire qu'on est angoissé parce que le téléphone n'est pas à portée de main, c'est troublant quand même.
C'est troublant et c'est pas étonnant. Enfin, d'une part, c'est troublant parce que effectivement, on se dit comment un objet comme celui-là peut-il nous angoisser, nous stresser. Mais c'est pas étonnant parce que cet objet, en fait, c'est un objet qui est un petit peu nous.
Vous le prenez en main, d'ailleurs.
Je le prends.
Ça y est. Donc, vous êtes nomophobe.
Non, je vais vous dire pourquoi je ne pense pas l'être. Cet objet, c'est le prolongement de toute une série d'activités ou d'outils que nous utilisons quotidiennement. Simplement, ils sont rassemblés, on peut les mettre dans notre poche, on peut les prendre avec nous. Et donc, évidemment, le perdre, enfin, on perd quelque chose de précieux. Parce que ça nous appartient, mais c'est aussi le reflet d'une part de ce qu'on est, de ce qu'on fait. Et donc, c'est ça, en fait, qui crée cette angoisse. C'est le fait de perdre cet outil qui nous paraît tellement proche de ce que l'on peut être.
Mais on voit dans d'autres études encore que le fait de ne pas avoir son téléphone à proximité augmente les pulsations cardiaques, augmente le stress. Des étudiants à qui on posait une série de questions avec téléphone en poche et sans téléphone ne parviennent pas à répondre aux mêmes questions quand ils n'ont pas leur téléphone en main.
Oui. D'accord, mais là, je crois qu'on doit quand même préciser un petit peu quelle est l'ampleur que ce phénomène peut avoir, parce que vous avez cité des chiffres qui sont de grande ampleur. Mmh. Alors, aujourd'hui, par rapport à ces chiffres, il faut être prudent dans le sens où la nomophobie, ça peut être un trouble qui est réellement un trouble d'anxiété. Mais ce qui est important dans le fait que ça soit un trouble d'anxiété, c'est le fait qu'il soit envahissant, ça veut dire qu'il nous empêche de vivre normalement. Mmh. Alors, si 70% disent, 70% des personnes sondées à un endroit ou à un autre disent « Voilà, je suis stressé quand mon téléphone portable sonne à un moment imprévu » ou bien « Ok, on peut le comprendre. » Mais est-ce que pour autant, dans l'ensemble de leur vie, elles sont stressées par le fait de croire, d'imaginer perdre leur téléphone ? Quand on regarde des chiffres plus précis qui mettent en évidence ce que c'est réellement la dépendance à cet outil technologique, on est autour de 15-20%.
Qui sont dépendants, vraiment dépendants ?
Qui sont dépendants. Après, on peut discuter de ce qu'est la dépendance aussi, parce que...
Mais c'est beaucoup quand même. Ça veut dire une personne sur 5 ou une personne sur 6 est dépendante aujourd'hui de son téléphone en Belgique.
En tout cas, mais bon, l'anxiété, c'est graduel. Mmh. Donc, quelque part, on a le niveau 0 d'anxiété, puis on a le niveau 100. Alors, en fait, il y a une série d'indices, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas non plus une mesure complètement exacte de ce qu'est la nomophobie. Donc, on l'approche par toute une série d'indicateurs. Alors, ces indicateurs, c'est la manière dont les gens se situent eux-mêmes en disant, voilà, quand je n'ai plus de batterie, quand je n'ai plus de réseau, quand mon téléphone ne fonctionne plus, quand j'ai un appel qui est imprévu, quand je rate des appels, j'ai un niveau de stress qui s'élève. Alors, c'est quand tous ces éléments-là se rejoignent, en fait, mm-hmm. qu'on peut se dire qu'effectivement, à un moment donné, on peut qualifier ça comme étant une forme de dépendance. Et puis, il faut la graduer. Mais tout le monde n'est pas dépendant au même degré. Bon, voilà, donc je crois qu'il faut le comprendre dans ce sens-là.
Les adolescents sont-ils plus dépendants que les adultes ou que les enfants ? Eh bien, on va évoquer tout cela juste après ceci.
Jusqu'à midi, question clé. Sur la première.
Et jusqu'à midi, on parle de nomophobie, cette addiction au smartphone, ou en tout cas cette crainte d'être dépossédé de son téléphone. On en parle avec Bruno Delièvre, professeur à Lumons, expert en technologie, l'éducation et des usages des TIC en éducation. Écoutons peut-être maintenant un extrait du journal du JT de France 2, JT qui a été présenté au mois de janvier. Le titre du reportage était « Ado, jamais sans mon smartphone ».
Consulter leur portable dès la sortie des cours, c'est le premier réflexe de ces collégiennes. Il faut rattraper une journée de texto pour Cassie et Shaima, qui vont pianoter avec leurs amis.
Au collège, on a le droit de l'avoir sur nous, mais tout le temps éteint, parce que sinon, on peut avoir une sanction ou autre. Donc, dès qu'on a fini les cours, on est contente de retrouver notre téléphone.
Et vous leur dites quoi ?
Ça va, on fait quoi demain ? Et comme on parle des soldes en ce moment...
Ouais, c'est une conversation un peu banale, en fait. Vous pourriez le faire au téléphone.
Oui, mais là, au moins, oui, peut-être, bien sûr, on peut le faire au téléphone, mais là, ça me permet de parler en même temps à Shaima qu'à plein de copines.
Leur portable, c'est toute leur vie. Un compagnon de chaque instant, quelquefois une obsession, au point même d'en oublier parfois de nous regarder quand on leur parle.
Si je l'ai pas, j'ai l'impression d'être toute nue, on va dire, quand j'ai pas mon téléphone. Je suis en manque de quelque chose, je sais pas.
T'as reçu le message d'Emilie ?
Comme trois quarts des adolescents, elle possède un mobile, un vrai marqueur social.
Il faut être à la mode, faut pas avoir les anciens téléphones. Ça nous permet aussi d'avoir pas l'iPad ou l'ordinateur sur nous, mais d'avoir un petit téléphone qui nous sert à...
Il sert à tout.
Voilà.
Être connecté à tout instant, c'est le credo des ados. Pirianka, 14 ans, possède un portable seulement depuis 4 mois. et elle ne lâche plus.
Je rentre comme ça. Et là, d'un coup, je sens le vibreur, alors je le sors. Alors que si je le mets dans ma poche ici, je le sens pas.
Pendant les vacances, cet élève de 3e a envoyé plusieurs centaines de SMS à ses copains. Plusieurs centaines par jour.
Une discussion, ça peut aller jusqu'à 50 SMS. Donc, si on a 3 discussions dans la journée, ça fait à peu près 200.
Ça fait partie de moi, en fait. Je sais pas. C'est comme si c'était moi.
Il y a tout dessus sur mon portable. Il y a des photos de moi, des photos de tout le monde.
Et toute votre vie.
Voilà.
À toute leur vie sur leur téléphone, extrait donc du JT de France 2. Bruno Delièvre, je vous ai vu sourire à plusieurs reprises. Ce sont des choses que vous entendez très très souvent, ça. Voilà, mon portable c'est toute ma vie, je me sens toute nue sans mon portable, si je l'ai pas il me manque quelque chose, c'est un marqueur social. Ce sont des arguments que vous entendez très régulièrement ?
Oui, oui, bien sûr. Et je pense que là on entend effectivement des adolescents qui sont nés avec ce type d'outils pratiquement pour la plupart d'entre eux. Alors nous ne le sommes pas, mais je pense que ce type de lien, on ne l'a peut-être pas avec la même intensité parce qu'on voilà, on n'est pas né avec, mais il n'empêche qu'on n'est pas très loin de soi pour une partie d'entre nous. Ce n'est pas pour autant qu'on est dépendant. Mmh.
Est-ce que ça vous étonne aussi ? Est-ce qu'on doit, en tant que parent, et bien craintif par rapport à ce mode de vie. Certains disent, moi, ce qu'il y a le pire, c'est de dire à mon enfant, tu me donnes ton téléphone, et quelque part, je te prive de ton téléphone comme punition. Bonne ou mauvaise chose ?
Bonne ou mauvaise chose, je pense que ce qui est important, je ne sais pas s'il faut être craintif, mais il faut être attentif. Donc en tant que parent, en tant qu'éducateur, je crois que c'est ça qu'il faut être. Il faut être attentif. Donc c'est essayer de détecter si l'usage nous paraît être un usage qui est pertinent, qui a l'air de ne pas nuire à la vie familiale, la vie sociale en général. À partir du moment où on a des indices qui permettraient de penser qu'à un moment donné, c'est décalé, bon, à ce moment-là...
Ça veut dire quoi décalé ? Parce que de nombreux parents qui nous écoutent, qui sont parents d'ados, disent « Moi, ma fille, mon fils envoie en effet les doigts rivés sur le téléphone, envoie des SMS, est en train de chatter à gauche, à droite, avec plusieurs personnes en même temps. Ils ne discutent plus ensemble, ils ne se retrouvent plus dans des salons, etc. Qu'est-ce qu'on fait ?» Salon alors, ou bistrot, par exemple.
D'une part, oui, tout à fait. Mais, donc, pour moi, il y a au moins deux choses. Donc, la première, c'est le fait que quand on est en famille, peut-être qu'il y a un moment où, effectivement, on doit pouvoir se parler. Et on se parle en direct, là, comme on se parle, nous. Mm-hmm. Ça me paraît normal. À côté de ça, il y a des moments où, en fait, on croit qu'ils ne sont pas en interaction, qu'ils ne sont pas en lien social. Mais ils sont en lien social. Et donc, je pense que c'est s'ils se privent de ce contact-là qu'il faut être d'autant plus attentif.
Ils sont en lien social d'une autre manière.
Bien sûr.
À notre époque, on téléphonait pendant des heures. Aujourd'hui, on envoie des SMS pendant des heures.
Oui, mais c'est la même chose. Je veux dire, c'est toujours notre téléphone, alors qu'on l'utilise pour téléphoner, parce qu'on peut le faire, qu'on l'utilise pour envoyer des SMS, qu'on l'utilise pour envoyer des photos qui traduisent des moments de notre vie. Je pense que ça ne change pas grand-chose fondamentalement, si ce n'est que c'est plus accessible. C'est moins coûteux, moins coûteux, j'en suis pas sûr. Mais c'est vrai que, en fait, c'est très répandu, on est très sollicité.
Comment est-ce qu'on peut éduquer les enfants ou les ados ? On va poursuivre cette discussion après Moby.
Question clé jusqu'à midi sur la première.
On revient avec vous, Bruno Delièvre, sur ce que vous disiez à propos de l'éducation, que ce soit les ados ou les enfants. Comment est-ce que je peux bien éduquer mon enfant pour lui éviter justement une nomophobie ?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Donc, le premier, c'est qu'il faut très tôt informer les plus jeunes de ce que sont ces technologies numériques. Ça veut dire qu'il faut leur apprendre à...
Très tôt, ça veut dire quel âge ?
Dès l'école primaire, en fait, très, très rapidement, il faut leur permettre de comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'au niveau technologique, comprendre comment ça fonctionne, ça va leur permettre de ne plus être des individus qui vont subir ces outils, mais qui vont pouvoir être créateurs. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir... aujourd'hui, on parle de la programmation à l'école. De remettre de la programmation à l'école. Si vous êtes capable de programmer, vous pouvez programmer une application, vous ne la subissez plus. Donc, évidemment, il y a des outils aujourd'hui qui permettent, comme Scratch par exemple, qui est un outil développé par le MIT, qui fait ça très bien, qui permet pour des jeunes enfants d'apprendre la programmation. Une autre chose, c'est comment on connaît ses droits et devoirs par rapport à ces usages.
Ouais.
Donc, il y a un droit à l'intimité, le droit à la vie privée. Il y a le droit à l'image. Comment peut-il être préservé ? Comment faut-il le préserver ?
C'est le rôle des parents, des éducateurs, des professeurs ou c'est le rôle de tout le monde ?
C'est le rôle de tout le monde, mais je pense que c'est essentiel qu'à l'école, ça soit quelque chose qui soit développé de façon, non pas prioritaire, mais en parallèle avec tout le reste.
Mais ce n'est pas le cas. C'est pas beaucoup le cas, en tout cas.
Non, en tout cas, ça figure dans les programmes. Il y a un cours d'éducation aux médias qui est prévu en termes de développement de compétences. Donc, c'est un certain nombre d'éléments qui doivent figurer au travers, évidemment, de différents cours. Parce que pour moi, c'est un élément qu'il faut développer au moment où une situation se présente et où il faut l'interroger, et où il faut être critique et où il faut être constructif par rapport à ce que cette situation peut générer.
Autre point essentiel pour l'éducation.
Il faut aussi savoir que tous les services que nous rendent ces outils ne sont pas complètement innocents. C'est-à-dire que derrière, il y a des entreprises, il y a un modèle économique. Et que donc, il faut attirer l'attention des plus jeunes et très rapidement. Qu'on peut en faire un usage pertinent, mais ça n'empêche que cet usage, derrière, il y a d'autres réalités. Il faut
savoir. Est-ce que je vous coupe, excusez-moi, mais est-ce que les ados ou les jeunes ne s'en foutent pas un peu de ce qu'on peut leur dire là-dessus? À partir du moment où ils sont accros finalement à leur téléphone, à partir du moment où ils passent autant d'heures sur leur téléphone, leur dire ça, est-ce qu'ils disent pas « oui, ça va papa hein »
Ils vont peut-être le dire, mais ils vont quand même l'entendre. C'est-à-dire que moi je pense qu'il y a aussi le fait d'une forme d'imprégnation, d'une forme de prise de conscience. Donc on doit être conscient en fait des enjeux. Alors après, on ne prend pas peut-être la mesure de toute l'ampleur de ces consciences, toute la conscience de l'ampleur de ces dangers. Mais il faut les mettre en avant, il faut créer des situations. Il y a pas mal aujourd'hui de sites qui permettent de mettre ces jeunes en situation en se disant, tiens, mais... Voilà,
quel genre de situation?
Quand je suis confronté, par exemple, une situation où on pourrait vivre une forme de harcèlement déguisé, quelque chose comme ça. Et donc, c'est les éveiller à, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ou bien se rendre compte que quand vous cherchez sur un moteur de recherche une information, toutes les publicités qui apparaissent à côté sont liées au texte que vous êtes occupé à taper. Mm-hmm. Et donc, ne fût-ce que attirer leur attention, ils vont se dire, oui, mais donc quelque part, je suis suivi, je suis manipulé, peut-être. En tout cas, je peux être influencé. Et on sait que quand on a pris conscience de quelque chose, on peut être un peu moins influençable.
On vient de parler des ados ou des enfants, ce sont les mêmes conseils, je suppose, pour les adultes. Vous m'avez dit il y a quelques instants, non, je ne suis pas nomophobe et je vais vous expliquer pourquoi. Alors pourquoi? Parce que vous aviez votre téléphone en main quand même.
Oui, bien sûr, mais je pense que son téléphone, tout le monde l'a à proximité. Pour autant, je ne me sens pas du tout dépendant dans le sens où je peux m'en passer pendant un temps certain. Je peux décider de le couper parce que j'ai envie d'être... avec moi-même, plutôt que de voir être interpellé alors que je ne le souhaite pas. Donc, bien sûr que c'est mon outil et tous mes travaux, toutes mes activités se trouvent dans mon téléphone.
Et pour ceux qui n'y arrivent plus, il existe aussi des cures de détox. On n'a pas le temps d'en parler de ces cures de détox. Merci Bruno Delièvre, je rappelle professeur à l'UMONS. Voilà, question clé, c'est terminé. On va pouvoir rallumer son téléphone portable. Demain, jeudi, nous reviendrons sur comment enseigner la valeur de la nourriture aux enfants. Nous évoquerons aussi le nouveau concept des farines à base d'insectes avec un exemple bien précis.
Podcast, la première.